GG Mabouini, GG Mamounier.
Je viens vous saluer en langue chimaoré, dire bonjour mesdames, bonjour messieurs. Très heureux d'être avec vous ce matin, avec mon épouse Chantal, comme disait Luc, encore. Bon, j'espère que ce n'est pas le encore de trop, quoi. Mais voilà, très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est vrai que lorsqu'on est en vacances et qu'on n'a pas le souci de la prédication lorsqu'on rentre, eh bien c'est apaisant. Sinon, on pense toute la semaine, on pense déjà au message qu'il faut apporter. Donc, Luc, comme ça, a pu se reposer jusqu'au bout, je pense. Et on pu, eh bien, avec Valérie, reprendre des forces. Que le Seigneur les bénisse, qu'il renouvelle vos forces encore. Et que vraiment, le Seigneur bénisse l'église de Sainte-Anne. Quelques bonnes nouvelles me concernant. Et que l'église de Sainte-Anne soit bénie aussi. Que l'église des Minimes soit bénie aussi. Sous Cotard, Toulouse-Ouest. Vous êtes d'accord, Colombier? Voilà, gloire à Dieu. Excusez-moi. Alors, oui, quelques nouvelles, bonnes nouvelles me concernant. Certains savent que j'ai eu des soucis de santé qui ont duré et duré, ce qui a expliqué notre temps de prolongation en métropole. Et puis, pour faire court, j'aurais éventuellement dû subir une opération qui aurait repoussé l'échéance de notre tour sur le champ missionnaire très très loin. Mais grâce à la main de l'homme, parce qu'il ne faut pas non plus négliger la main de l'homme, grâce à une kiné tout à fait spéciale concernant ce que j'ai, et surtout grâce à la main de Dieu, eh bien les douleurs se sont estompées radicalement. Je vais bien mieux, à tel point que nous repartons sur le champ missionnaire le 19 juillet. Voilà, le Seigneur a bien conduit les choses, parce que les frères qui ont pu prendre un peu la relève ces dernières semaines vont partir en congé, et on va arriver au moment où ils partent. Donc vraiment, le Seigneur est bon, et il avait tout programmé, hein, dans sa souveraineté. Le Seigneur est celui qui a tout maîtrisé. Donc merci pour vos prières. Continuez de prier pour nous. Voilà, pendant quelques semaines, même quelques mois, on a été sortis de la fournaise, et là on sait qu'on retourne dans la fournaise. Le contexte de Mayotte ne s'arrange pas, malgré l'opération Bambouchou, il empire même. Je ne peux pas entrer trop dans les détails, mais quand nous lisons les amis de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise, nous savons qu'il y a quelqu'un qui était avec eux, qui a marché avec eux, et c'est notre force. Jésus est avec nous, Jésus est avec vous. Donc si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être négligent dans la prière, ça ne veut pas dire qu'il faut être imprudent, ça veut juste dire que le Seigneur est là, et avec le Seigneur, eh bien, le triomphe aura lieu. Gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je ne sais pas combien de temps j'ai, Luc. Illimité. C'est le genre de truc qu'il ne faut pas dire à un prédicateur qui sert le Seigneur en Afrique en plus. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel 17. Et nous allons faire la lecture du verset 34 au verset 37. 1 Samuel 17. Nous allons parler ce matin de la formation d'un jeune homme, d'un ado, qui a été formé à l'école de Dieu pour pouvoir affronter le plus grand combat, je dirais, humain qu'il a eu à affronter. Et nous allons retenir de ce passage les leçons qu'il a apprises dans le temps où il s'est retrouvé seul avec Dieu, une formation isolée, une formation un peu dans le désert, loin de tous, loin de tout soutien humain, mais à l'école de Dieu. Je ne sais pas si vous faites partie de ces gens qui ont conscience qu'ils ont encore des choses à apprendre avec le Seigneur. Si vous n'en faites pas partie, vous pouvez nous quitter. Ça voudrait dire que vous avez tout appris et que finalement vous n'auriez pas besoin, par exemple, de l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous sommes à l'école du Seigneur et je crois que nous le serons jusqu'à la fin de notre vie. Et que Dieu nous garde de tout orgueil, de présomption, de penser que, eh bien, nous savons, nous avons l'expérience. Merci Seigneur pour l'expérience, mais l'expérience parfois fait défaut, n'est pas à la hauteur des défis que nous avons à relever.
Et ce matin, nous voulons être à l'école de Dieu. Voulez-vous être à l'école de Dieu? Je crois que l'église, c'est un lieu où on apprend, où on est enseigné. Je crois que c'est un lieu où nous sommes formés. C'est un lieu aussi où nous musclons notre foi. Et l'église n'est pas un lieu de divertissement. L'église n'est pas un lieu de rassemblement simplement et bien fraternel, même si il est important d'avoir ces rassemblements fraternels, mais je crois que l'église est un lieu de formation, un lieu où nous apprenons de Dieu. Et les temps dans lesquels nous sommes nous obligent à être sérieux dans notre foi. Êtes-vous d'accord avec cela? Les temps dans lesquels nous sommes et dans lesquels nous allons entrer encore nous obligent à ne pas être désinvoltes et à laisser le Saint-Esprit nous former pour le combat dans lequel nous sommes engagés. Gloire à Dieu. Donc dans 1 Samuel 17, nous lisons ce texte. David dit à Saül, je dépeins le contexte rapidement, vous savez qu'un géant, Goliath, venait eh bien, lancer un défi à l'armée de l'Éternel, et voulant éviter que dans les guerres, à l'époque, voulant éviter qu'il y ait trop de morts, eh bien, un champion venait défier un autre champion, et si... Eh bien, celui qui remportait la victoire, l'armée avait remporté la victoire du vainqueur. Et voilà que Goliath venait lancer le défi et personne ne relevait le défi. Les soldats les plus vaillants de Saül ne relevaient pas le défi. Saül lui-même ne relevait pas le défi. Et voilà qu'un jeune garçon, un ado, David, envoyé par son père pour apporter quelques fromages à ses frères. C'est toujours bon d'apporter du fromage. C'est un Auvergnat qui vous le dit. Si vous ne savez pas quoi faire comme cadeau, apportez du fromage. Et voilà qu'il apporte quelques fromages et quelques autres nourritures à ses frères. Il vient prendre des nouvelles pour son papa, pour le papa qui s'inquiète. Et voilà que David est mise devant l'évidence qu'un défi est lancé à l'armée de l'Éternel et personne n'a relevé ce défi. Personne n'a relevé ce défi. Un de ses frères va le prendre pour un orgueilleux, un présomptueux. Et David va se retrouver devant Saül et va se proposer, lui, d'aller combattre ce Philistin. Il va dire, moi je relèverai le défi, personne ne relève le défi, tout le monde tremble devant Goliath, tout le monde se laisse, vous savez... Goliath est l'image de l'ennemi, de Satan. Et vous savez que des fois, Satan a gagné simplement parce que nous ne relevons pas le défi. Et Goliath était déjà vainqueur, tenait l'armée de Saül dans la crainte parce que personne ne relevait le défi. Mais David est venu trouver Saül et il dit, j'irai relever le défi. Et Saül va lui dire au verset 33, si vous avez vos Bibles, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Les proportions sont pas équilibrées. Tu ne seras pas capable, toi qui n'es qu'un enfant. On pense que David avait là 15, 17 ans, peut-être pas plus. Tu n'es pas capable de relever le défi. C'est un homme de guerre. En plus de son impressionnante taille et de son impressionnante armure, voilà qu'il est formé au combat. Ce n'est pas pour rien qu'il est le champion de l'armée adverse, parce qu'il est formé au combat. Toi, quelles sont tes références? Dis-nous quelles sont tes références. En tout cas, moi, Saül, je considère que tu n'as aucune référence pour relever ce défi. Et c'est là que David va répondre, et c'est les leçons que nous allons apprendre ce matin. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David lui dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion » et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Connaissez la suite, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je vous encourage à lire la suite du texte. Et nous savons qu'effectivement, David a terrassé le géant Goliath, avec une fronde et une pierre, et se saisissant de l'épée de Goliath, il lui a tranché la tête et il a été victorieux. Et ce matin, je voudrais non pas m'arrêter sur ce combat dont on parle souvent dans nos églises, le combat contre Goliath, ça mériterait aussi qu'on médite ce passage, mais je voudrais m'arrêter sur la formation de David. Sur cette école qu'il a eue dans le secret des champs lorsqu'il gardait ses brebis, les brebis de son père, et ce qu'il a appris dans le combat qu'il a dû livrer contre le lion et l'ours. Quand je lis le texte à chaque fois et que je vois David courir derrière le lion ou l'ours pour récupérer la brebis, je me dis, quel courage! Moi, si je vois un ours ou un lion, je vais courir. Mais dans l'autre sens. Je ne sais pas vous. Quand nous étions au Québec, nous allions visiter des sœurs au fin fond du Québec, dans le nord du Québec, dans la dernière ville, après il n'y a que les Indiens qui habitaient là-bas. Donc on est allé dans un chemin, on a pris le chemin et puis on a vu un petit grizzly. Petit grizzly quand même, costaud. Et Chantal dit « Arrête, je veux aller le caresser ». Je lui dis « Non, non, non !» Parce que derrière le petit, il y a le gros. Et quand vous voyez un ours, mes amis, vous n'avez pas envie de le caresser. Et s'il prend une brebis, je me mets à la place de David, je l'aurais mis dans les pertes du travail que mon père m'a confié, et mon père certainement aurait compris quand même que je perde une brebis, parce que quand même c'est pas rien que d'affronter un lion ou un ours. L'assurance de David ne vient pas de son orgueil, comme l'a cru un de ses frères. Elle ne vient pas non plus, écoutez-moi bien, de l'inconscience de sa jeunesse. Vous savez, quand on est jeune, on se croit champion. On a parfois dans les églises des jeunes qui veulent apprendre aux anciens comment est la vie. Bon, c'est pas Colomier. Parfois, on a des jeunes aussi qui commencent à servir le Seigneur, qui ont vraiment beaucoup d'envie, de zèle pour servir le Seigneur, et des fois, ils veulent même apprendre au pasteur comment prêcher. C'est du vécu. Et quand on est jeune, des fois, on a un peu l'inconscience de notre jeunesse, on a le zèle qui est là, et le zèle n'est pas tempéré par la sagesse, ce qui fait que nous serions peut-être dans la prétention de relever des défis que les aînés ne relèvent pas. Mais David n'est pas un prétentieux, il n'est pas non plus dans l'inconscience de la jeunesse. David a foi en son Dieu. Est-ce que vous avez foi en Dieu ce matin? Est-ce que vous avez foi en Jésus? Maman Hélène, elle a foi en Jésus. Le Seigneur l'a retiré de la mort. Alléluia. Les hommes avaient dit, c'est fini, il faut peut-être préparer les funérailles, mais Dieu est victorieux. Alléluia. Et le Seigneur donne encore du temps à notre sœur. Cette foi, David l'a développée lorsqu'il était seul à garder le troupeau de son père. Vous savez, il y a des apprentissages, des formations que nous devons connaître seuls avec Dieu. Bien sûr, il est important de chercher à se former dans l'étude de la parole de Dieu, dans des séminaires de formation qu'on peut avoir ici ou là, et c'est très important. Mais il y a des choses qu'on apprend que seulement avec le Seigneur, seul avec Dieu. Et c'est une école qui est parfois difficile parce qu'elle est contraignante, parce que le Seigneur va nous amener dans des épreuves. Aimez-vous les épreuves? Si vous me dites oui, on va prier pour vous, vous n'êtes pas normaux. Personne n'aime les épreuves. Mais vous savez comme moi, et on va en parler ce matin, qu'il y a des leçons que nous avons apprises dans les épreuves que nous n'aurions pas apprises dans la facilité. Il y a une dépendance du Seigneur qu'on a appris dans le désert de nos vies. Nous avons appris dans le désert de nos vies que Dieu était là et fidèle, lui, si parfois les hommes nous avaient abandonnés et oubliés. Et David, dans son adolescence, a appris qu'il pouvait faire face au lion et à l'ours et a demeuré victorieux. Il n'était que sous le regard de Dieu. Les seuls spectateurs de ces victoires étaient les quelques brebis qui étaient là, même inconscientes du défi que David relevait lorsqu'il allait chercher dans la gueule du lion ou de l'ours la brebis qui avait été attrapée. Les brebis, vous savez, c'est magnifique une brebis, mais ça n'a pas un QI exceptionnel. Et quand les brebis ont vu, vous voyez ça, ça ne les marquait pas. Aucune brebis ne publiait sur Facebook « Mon pasteur est le héros des pasteurs ». Elle ne tweetait pas « Mais il n'y a pas de meilleur pasteur que mon pasteur ». Dans la solitude, dans l'anonymat, David était formé sous le regard de Dieu. Mais permettez-moi de vous dire qu'il n'y avait pas que le regard de Dieu, il y avait aussi le regard du diable. Le diable aussi était témoin. Que ce jeune ado était capable de relever un défi contre le lion et l'ours, et le diable savait déjà que celui-ci lui ferait des misères. Il n'était que sous le regard de Dieu, le regard du diable, il ne cherchait pas le suffrage des hommes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous vivons dans une société terriblement dangereuse parce que nous recherchons le suffrage des hommes. Et ça n'échappe pas à l'Église. Ça n'échappe pas au pasteur. Parfois, on veut montrer qu'on est un bon pasteur, on publie des choses et on est là sur Facebook à voir combien il y a de j'aime. Combien de gens ont aimé ce que j'ai fait. Et nous devons apprendre avec le Seigneur à être formés dans l'anonymat, dans le secret, loin du regard des hommes. Et mes bien-aimés, ce n'est pas le suffrage des hommes que nous recherchons, c'est l'accord de Dieu. Alléluia. Oui ou non, mes frères et sœurs? Si Dieu est d'accord, ça c'est bon pour moi. Ça ne veut pas dire que je vais me mettre en désaccord avec les hommes par provocation. Mais si Dieu est d'accord, alors ça me va. Sa formation a été dans l'isolement, mais il a appris de grandes leçons qui vont lui permettre de relever le défi qu'il aura à relever contre Goliath. D'ailleurs, remarquez, quand Saül lui dit « Tu n'as pas de référence », David sort ses références. Il dit « Détrompe-toi. Tu penses que je suis qu'un jeune ado qui vient avec quelques fromages ? Ma musculature n'est pas encore formée, on en parlera tout à l'heure. Je suis là, moi, mon métier c'est de garder les brebis de mon père, et tu penses que je n'ai pas de formation, je n'ai pas de référence, je ne peux pas avoir la prétention d'avoir les qualités de tes meilleurs soldats, mais il faut que tu saches une chose. Quand un lion ou un ours venait prendre des brebis de mon père, je lui courais derrière, déjà vous le courez derrière, je l'attrapais par la gorge et je lui faisais son affaire. Voilà le gars qui est devant toi, Saül. C'est pour ça que Saül va lui dire, eh bien, vas-y. Et j'aime et lui dire que l'Éternel soit avec toi. Et l'Éternel était avec lui. Alléluia. Et bien aimé, les déserts sont toujours une école difficile, mais c'est une bonne école. Le désert révèle rapidement aussi la réalité de la foi et de nos convictions. Ça vient, c'est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Le pire des païens peut dire qu'il a la foi quand tout va bien. Mais la foi, elle se révèle dans les épreuves. Cette capacité de dire, malgré ce que je traverse, je crois que mon Dieu est puissant. Malgré que la mort et l'ombre de la mort, maman Hélène est sur moi, je crois que Dieu peut triompher. Alléluia. La foi se révèle dans les difficultés. Et parfois l'Esprit de Dieu va nous conduire dans les difficultés. Vous allez me dire, non mais pasteur, pas l'Esprit de Dieu. C'est le diable qui nous conduit dans les difficultés, c'est les circonstances de la vie qui nous conduisent dans les difficultés. Mais si vous connaissez votre Bible, vous savez que Jésus, lorsqu'il vient d'être baptisé, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a amené dans le désert pour y être tenté. Méditez sur chacun de ces mots. L'Esprit de Dieu qui amène Jésus dans le désert pour y être tenté, ça sonne mal à notre théologie de facilité. Ça sonne mal à notre évangile à l'eau de rose. Ça sonne mal à cet évangile qu'on en prêche ici ou là, où on dit aux gens, venez au Seigneur, et si vous venez au Seigneur, vous n'aurez plus de problème. Je dis souvent, quand je suis venu au Seigneur, j'ai eu des problèmes que je n'avais pas avant. J'ai eu de l'opposition dans ma famille, je ne l'avais pas avant. J'ai eu de l'opposition de la part de mes grands frères que je n'avais pas avant. Parce que maintenant, je ne marchais plus selon le train de ce monde, mais je marchais selon la volonté de Dieu. J'ai eu des problèmes que je n'avais pas avant. Et l'Esprit de Dieu a amené Jésus dans le désert pour y être tenté. Et Jésus a été victorieux. Et Jésus a été quelque part comme formé. Avant de manifester vraiment son ministère public, il a été formé dans le désert. Nous allons retenir ce matin quelques leçons. Et le titre de mon message, c'est « Les leçons du lion et de l'ours ». Vous savez, nous avons parfois la mémoire courte et nous devons nous souvenir des victoires que le Seigneur nous a permis de remporter. Quelqu'un a écrit, et je l'ai noté, et Je vais le dire doucement ou deux fois parce que c'est assez profond. Nous écrivons les bénédictions dans le sable et nos blessures dans le marbre. Je le redis. Nous écrivons les bénédictions de Dieu dans le sable et nos blessures dans le marbre. Ce qui veut dire que nous sommes capables de nous souvenir pendant des années des combats, des difficultés que nous avons connues, et nous oublions rapidement le nombre de fois où le Seigneur nous a bénis. Vrai ou pas? Et ça, ça n'a pas été le cas de David. David, on va essayer d'apprendre trois leçons. Quand votre pasteur m'a dit que j'avais le temps et que je sais que vous avez un pique-nique après et que donc le repas ne risque pas de couler, vers 3h15, on aura fini. Alléluia. On va essayer de retenir trois leçons. Vous permettez? David a affronté, la première leçon, David a affronté le lion et l'ours alors qu'il exerçait son service fidèlement. Première leçon, le service de Dieu amène des combats. Servir Dieu nous amène sur le chemin du combat. Vous voulez avoir des combats? Mettez-vous à servir Dieu. C'est la vérité. David a rencontré ces dangers alors qu'il était dans sa vocation. Je parle des dangers du lion et de l'ours, car les leçons, c'est les leçons du lion et de l'ours. Il servait fidèlement dans le service que son père lui avait confié. Il a appris que le chemin de l'engagement pour Dieu est un chemin de combat. Vous savez ce que Paul disait au jeune Timothée qu'il avait en formation? Il lui disait, combat, le bon combat de la foi. Combat. Et la vie chrétienne est un combat, oui ou non, mes frères et sœurs? J'espère que vous avez bien mis votre garde en place. Je n'ai pas fait de boxe, mais j'ai vu des matchs de boxe. Et je sais que des fois, une défaite a lieu simplement parce qu'à un moment donné, le boxeur va baisser la garde. C'est pas que l'autre est forcément plus fort. C'est pas que l'autre est plus musclé que lui. C'est même pas qu'il a une meilleure technique que lui. Mais à un moment donné, il va baisser sa garde. Et en baissant la garde, il va donner une brèche. Et se saisissant de la brèche, l'adversaire va le terrasser. Et mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais les temps dans lesquels nous sommes, je le disais tout à l'heure, nous amènent à un grand sérieux. Il est vraiment pas... C'est pas l'époque, c'est pas le moment de baisser la garde. Oui ou non? C'est le moment de redoubler notre vie de prière. C'est le moment, excusez-moi de le dire aussi directement, je m'en vais après le 19 juillet, et peut-être il n'y aura plus d'encore, Francis. Hein. Mais permettez-moi de vous dire, c'est le moment de retrouver le chemin des réunions de prière de son Église. Parce que c'est le moment de remettre la garde en place. C'est le moment de redevenir sérieux avec le Seigneur. Les temps dans lesquels nous sommes sont difficiles, mais je n'ai pas un scoop pour vous, ils vont devenir encore plus difficiles. Et nous vivons des temps où nous devons garder maintenir la garde dans le combat. Tous ceux qui sont engagés sérieusement dans l'œuvre de Dieu, à quelque niveau que ce soit, savent qu'ils sont sur le chemin du lion, qu'ils sont sur le chemin de l'ours et peut-être du Goliath. Un petit témoignage. Lorsque nous avons répondu à l'appel de Dieu pour aller nous former à l'école biblique, nous avons demandé à rencontrer notre pasteur et son épouse à la Gautrie, c'est Claude et Monique Roussel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et puis ils sont venus, on a exprimé à Claude et Monique notre désir d'aller nous former à l'école biblique. On ne savait pas qu'un jour on serait serviteur de Dieu, on savait juste qu'on avait envie d'aller se former au CFB à l'époque. Et ils nous ont conseillé, ils nous ont encouragé à le faire, à voir comment le Seigneur pouvait conduire les choses. Le lendemain matin de ce rendez-vous, le lendemain matin, nous étions au petit déjeuner du personnel à la maison de retraite. Chantal venait de finir sa nuit, elle vient déjeuner avec nous. Elle est assise entre moi et Madame Roussel. Assise là, juste là. Petit gabarit, Chantal. Nous, gabarit supérieur. Sur le même banc. Et voilà que une des infirmières qui amène le café bouillant sortant de la machine industrielle, avec sa manche, renverse le café sur Chantal, sur ses deux cuisses. Café bouillant. Chantal a eu le réflexe de se reculer, sauf qu'avec moi et Madame Roussel, le banc n'a pas bougé. Et donc elle a été brûlée. Toutes les jambes ont été brûlées. Je l'ai amenée rapidement à Albi, de la Gautrie. Arrivé à l'hôpital d'Albi, Chantal souffrant, un des internes a dit, on a un collègue qui signe le feu. Si vous voulez, on l'appelle. Et il va venir, il est à côté, il n'est pas de service, mais il habite à 5 minutes, il vient si vous voulez, pour que votre épouse ne souffre plus. Je regarde Chantal, je lui dis non, Chantal, elle dit non. Le gars, il a dit, il n'aime pas sa femme. Au moment où Chantal, elle peut vous témoigner, au moment où elle dit non, la douleur du feu est partie.
Amen.
La douleur du feu est partie. Alors, elle a, on se préparait à partir à l'école biblique, elle a passé des semaines difficiles, elle dormait avec un plateau, pas qu'elle souffre trop. Les médecins lui ont dit, jamais vous pourrez exposer vos jambes au soleil, vous allez être marqué à vie. Bien sûr, elle ne vous montrera pas ses cuisses, elle ne les montre qu'à moi. Mais je peux vous témoigner qu'elle est complètement guérie.
Amen.
Mais elle a passé des semaines difficiles. Et là, vous êtes là, vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait? Le lendemain qu'on a répondu à l'appel de Dieu pour partir à l'école biblique. Vous voyez, le chemin du service, ce n'est pas un chemin facile. Et David a appris que dans son service fidèle, il allait rencontrer des oppositions. Il a appris qu'il aurait affaire au lion et à l'ours. Il sait que ce n'est pas parce qu'il est désobéissant, parce qu'il vit dans le péché, mais justement parce qu'il fait la volonté de Dieu, alors il a les combats. Vous savez, je crois que parfois nous avons une théologie un peu basique. Si tu souffres, c'est parce que tu pèches. Si tu souffres, c'est parce que tu désobéis. Parfois tu souffres parce que justement tu obéis. Oui ou non? Et David a appris que le chemin du service fidèle était un chemin de combat, de lutte et d'épreuve. Il a appris, c'est la deuxième leçon, il a appris aussi à s'adapter aux différents combats. Nous aimerions ne connaître qu'un seul type de combat dans notre vie. Comme ça, on deviendrait des experts, par exemple, du combat contre le lion. Et on serait des experts, on serait capable de donner des conseils à tous ceux qui sont attaqués par les lions, leur dire le lion, faut l'attaquer comme ça, il faut s'y prendre comme ça. Mais la vie est faite d'une telle variété de combats, vrai ou pas, n'a pas qu'un seul type de combat. Si on n'avait qu'un seul type de combat, je le répète volontiers, on deviendrait des experts et lorsque le lion viendrait, nous serions capables de l'affronter. Sauf que parfois il y a le lion, parfois il y a l'ours et parfois il y a le Goliath. Les lions et les ours ne se combattent pas de la même manière. Alors j'ai aucune expérience dans le domaine. Mais quand même, je réfléchis. Et je me dis, on n'affronte pas un lion comme on affronte un ours. Oui ou non? Les deux sont dangereux. Mais les deux n'ont pas la même panoplie, je dirais, d'armes pour attaquer un humain. Pour le lion, je pense qu'il faut plutôt se méfier de ses crocs. L'ours aussi, mais l'ours a une patte, il vous met un coup de griffe et il vous arrache la tête. Comprenez que David a appris que dans cette variété de combats, il devait s'adapter au combat. Ce n'était pas rien quand même de se battre corps à corps avec un lion ou un ours. Et dans tous les cas, la bataille a été rude. Nous aussi, nous affrontons toutes sortes d'ennemis. Parfois, le combat est dans la famille. Parfois, l'opposition est dans le couple. Un conjoint inconverti qui nous fait des misères. Et quand je dis misère, le mot est atténué. Parfois, c'est les enfants qui, ne venant plus à l'église, se rebellent même dans la foi, contre le Seigneur, et vivent une vie que nous ne pouvons même pas nommer dans ce lieu. Parfois, c'est dans la famille. Parfois, le combat, il est au travers d'une maladie, d'un cancer, de quelque chose qui vient subitement sur nos vies, un examen, on passe un examen et voilà que le médecin demande de plus grande expertise parce que finalement, la petite boule qui est là, elle est peut-être cancéreuse. Là, on a affaire au lion, on a affaire à l'ours. Et vous voyez, on n'a pas qu'une seule forme de combat. Mais David a appris à adapter le combat en fonction de l'ennemi. Certainement aussi, David a eu quelques blessures, quelques coups de gueule du lion, quelques griffes de l'ours. Frères et sœurs, certains pourraient vous montrer les vilaines blessures qu'ils ont eu à cause des combats qu'ils ont livrés. Vous savez, si vous demandez à un légionnaire ou un béret vert, c'est quand même des élites hein, dans le combat. Si un jour vous leur demandez d'enlever leur chemise ou leur t-shirt, vous allez voir qu'ils ont ici ou là les marques du combat qu'ils ont vécu. Ils en ont triomphé, mais là il y a la marque d'une balle qui a transpercé un jour leur épaule. Un peu plus loin, peut-être, sur le côté, il y a l'éclat d'un obus. Et lorsque peut-être ils sont habillés, vous ne voyez pas les marques des combats qu'ils ont connus, mais la réalité, c'est qu'ils ont des marques. Et si vous aviez à parler avec quelques chrétiens, s'ils enlevaient, bien sûr, ce qu'ils cachent par pudeur à ceux qui les entourent, comprenez qu'on ne parle pas ici d'enlever une chemise matérielle, mais si vous pouviez voir un petit peu derrière la pudeur qu'ils ont pour cacher leurs blessures, si vous pouviez voir la réalité de leur combat, vous comprendriez que le service de Dieu et leur engagement les a amenés à quelques blessures dans leur vie. L'apôtre Paul dira en Galates chapitre 6, verset 17, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ne trompons pas dans du mysticisme. Certains ont pris ce verset pour presque dire que l'apôtre Paul aurait peut-être des stigmates de la croix. C'est pas ça que Paul dit. Il dit les marques de Jésus, c'est en fait les marques que j'ai reçues dans mon service pour le Seigneur. Si vous connaissez la vie de l'apôtre Paul, je vous décline rapidement un petit peu ses expériences. Il a fait trois fois naufrage. Trois fois naufrage. Il a reçu trois fois 40 coups moins un. Trois fois. Une fois, il a été lapidé, laissé à demi-mort. Et il a connu la prison. Et je suis convaincu que si l'apôtre Pierre, lorsque peut-être, eh bien, il faisait sa toilette dans la pénombre du soir ou du matin, et que ceux qui étaient à côté de lui, Timothée par exemple, ou ses compagnons d'œuvre, Luc ou Apollos, lorsqu'ils faisaient leur toilette, certainement lorsque Paul enlevait sa chemise, ils voyaient les marques des coups de fouet. Trois fois, 40 coups moins un. Son dos est lacéré. Les amis, il y a deux façons de regarder nos blessures. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y a deux façons de regarder nos blessures. Peut-être que dans ce lieu, ce matin, il y a des gens qui pourraient dire, moi, à cause de mon engagement pour le Seigneur, j'ai connu des blessures. Et il y a deux façons de regarder nos blessures. Soit nous nous lamentons et disons, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? J'imagine David, lorsqu'il va arracher la brebis de la gueule du lion ou de la griffe de l'ours, j'imagine David qui a reçu un coup de griffe dans le torse, au travers du torse. Je l'imagine ramenant la brebis, qui se disent, mais ça valait, est-ce que ça valait vraiment la peine de prendre un coup pour une brebis ? Est-ce que ça valait vraiment la peine ? Et j'imagine David de dire, oui, ça valait la peine. Alléluia, oui, ça valait la peine. Parce que j'ai pris un coup de griffe. Mais la brebis est vivante, alléluia. J'ai pris un coup de croc du lion, mais la brebis, je la ramènerai vivante à mon père, alléluia. Donc, il y a deux façons de regarder nos blessures. Soit nous nous lamentons, soit nous abandonnons le service de Dieu. Il y a parfois dans nos églises, je ne sais pas si ça arrive à Colomiers, mais on finit l'année, et puis un des soucis des pasteurs, je vous livre le cœur de vos pasteurs, c'est est-ce qu'ils vont tous rester engagés pour l'année prochaine ? Ceux qui se sont engagés l'année d'avant. L'idéal, c'est que d'autres s'engagent encore, mais des fois, on est tellement sous pression qu'on se demande si déjà ceux qui servent, est-ce qu'ils vont servir ? Est-ce que la monitrice, elle va rester à l'école du dimanche ? Ça, c'est un souci. Et des fois, on a des bien-aimés qui viennent nous voir et qui nous disent, moi, j'arrête parce que l'année, elle a été trop dure, j'ai eu trop de combats. Et là, on se lamente sur nos blessures. On se dit, est-ce que ça valait la peine ? Finalement, on donne quelque part eh bien, raison à l'ennemi qui nous a vraiment combattus, qui a combattu notre foi, et on se dit, non, ça valait pas la peine. Ma sœur, toi qui as décidé d'arrêter l'école du dimanche, souviens-toi quand même que grâce à ton service, des petits vont entendre parler de Jésus et vont être sauvés. Et ça vaut la peine. Même s'il y a des blessures, ça vaut la peine. Alléluia. Amen. Ça vaut la peine à Francis et Chantal de retourner à Mayotte dans la fournaise, parce que même si c'est dur, il y a des âmes qui vont entendre parler de Jésus et il y a des âmes qui vont être sauvées. Oui, ça vaut la peine. Parce qu'il y a des âmes qui sont en jeu. Et la deuxième façon de regarder nos blessures, c'est de regarder nos cicatrices. Les cicatrices sont réelles. Écoutez-moi bien, elles témoignent de la victoire que le Seigneur nous a accordée. Oui, il y a des cicatrices. Mais à chaque fois que je pose mes yeux sur une cicatrice, elle témoigne que le Seigneur a triomphé. Alléluia. Regardez ma main. J'ai une bague là. Cette bague là, on l'a achetée lorsqu'on était au Niger. C'est la bague des survivants. Lorsqu'on a été au Niger, on a été dénoncé et on a manqué être enlevé par des djihadistes. Par Boko Haram, ils sont venus pour nous enlever. Et on doit notre survie à la souveraineté de Dieu, à la protection de Dieu et au fait qu'on a été averti 5 minutes avant qu'ils arrivent dans le village. Et on a acheté cette bague pour nous souvenir. Et à chaque fois que je pose mes yeux sur cette bague, je me souviens de ce qu'on a traversé, mais je me souviens que Dieu a triomphé et nous a gardés. C'est la bague des survivants. Mon épouse, la pauvre, elle a perdu la sienne. Mais les survivantes quand même. Vous voyez, il y a deux façons de regarder nos blessures. Soit on se lamente, soit on dit oui, les blessures sont là, les cicatrices sont là, mais la victoire, Jésus l'a remportée. Alléluia. Ah, voulez-vous que je termine par le troisième point pour que je ne revienne pas encore? Je termine par ce troisième point. David s'est rappelé face à Saül que c'est son Dieu qui lui a donné la victoire. Parce que David a récupérer la brebis volée, c'est à main nue. Avez-vous remarqué qu'il ne parle pas de l'utilisation de sa fronde? Vous avez remarqué ça? Et je pense qu'il aurait été capable, parce que c'était un bon tireur à la fronde, j'en suis pour. Vous allez dire, Goliath aussi, il avait une grosse tête. Hein? Mais quand même, il l'a touché au front. Hein? Et je pense que David aurait pu utiliser la fronde pour lancer une pierre dans la tête de l'ours ou du lion pour les terrasser, mais vous avez vu, c'est un corps à corps. Hein. Il court derrière l'ours, il court derrière le lion, et il dit, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule, il tire la brebis, et il dit, s'il se dressait contre moi, moi déjà je lui cours pas derrière, mais imaginons que je lui cours derrière, j'essaye d'arracher la brebis de la gueule de l'ours ou du lion en essayant de ne pas prendre un coup de griffe, et puis si j'y arrive pas, j'y arrive pas. J'ai quand même essayé. Lui dit, mais s'il se dresse contre moi, je le saisis par la poêle, enfin par la gorge, je le frappe et je le tue. C'est du corps à corps. Les amis, il n'avait pas d'arme de fer, visiblement. Il n'a pas utilisé une lance, un couteau, ni la fronde. C'est un ado. Il n'a pas encore les muscles développés. Ce n'est pas un Samson qui défie l'ours et le lion. C'est un ado. Et même s'il est habitué à courir derrière les brebis de son père et que certainement il a une certaine musculature, il n'est pas encore pleinement développé. Mais, mes amis, il connaît son Dieu. Alléluia. Amen. Si vous voulez une preuve que David connaissait son Dieu, lisez les psaumes. Le psaume 23, qu'on peut réciter par cœur. Il sait qui est son Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi, je vais le dire avec beaucoup de sérieux. Sans pression, Dieu connaît mon cœur, mais connaissez-vous vraiment Jésus? Connaissez-vous vraiment Jésus? Si demain on ferme l'église de Colomiers, l'avenir, ça n'arrivera jamais. Priez, parce qu'en ce moment, il y a une loi en France sur la cultualité. Il faut que vous sachiez qu'il y a des pasteurs qui ont des soucis pour garder la cultualité parce que la préfecture leur font des misères. Vous êtes passé, Luc? C'est bon? Vous attendez la réponse. Tant qu'il n'y a pas la réponse, il y a une épée de Damoclès. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va fermer l'église. Ça veut juste dire que si vous perdez la cultualité, votre pasteur a dû vous l'expliquer, vous serez imposé sur les offrandes. Je regarde le trésorier qui commence à moins sourire. à la hauteur de 60%, je crois, c'est ça. Ça veut dire que c'est fini. Hein. Il n'y a plus les moyens de subvenir. Et je repose ma question, si demain l'église est fermée, est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous êtes capable, seul avec Jésus, de grandir dans la foi et de persévérer dans la foi? Est-ce que vous savez, David, il connaissait son Dieu? Il n'était pas encore un homme musclé, mais il savait que son Dieu était puissant. De quoi avait-il besoin? Écoutez, je vais vers la conclusion. Un prédicateur portugais un jour disait qu'un bon prédicateur a 15 conclusions. Depuis, je veux être un bon prédicateur. Première conclusion. Bon, je vais vous faire grâce. De quoi avait-il besoin, David, de plus comme aide, puisque Dieu était avec lui? Écoutez-moi bien. De quoi as-tu besoin de plus comme aide si Jésus est avec toi? De rien d'autre? Il y a eu des moments dans nos vies où nous avons appris que Dieu était suffisant. Vous savez, nous sommes passés à une école dans notre ministère, à une école du désert. Ce désert s'appelle Saint-Pierre-et-Miquelon. Et à Saint-Pierre-et-Miquelon, on était quasiment seuls. On avait un auditoire au culte de 10 personnes, la réunion de prière 5 personnes. Sur les 5, il y en a 2 qui dormaient parce qu'ils prenaient des cachetons. Ma femme était fatiguée de dire Amen, Alléluia. Et on a vécu l'école du désert. J'ai 2 amis pasteurs, dont votre pasteur, qui nous appelait. Bon, des fois, ils se plantaient, ils nous appelaient à 4h du matin, ils avaient oublié le décalage horaire. Mais ça fait plaisir quand même. Et un autre ami pasteur. Mais sinon, ça a été voulu de Dieu. On a été comme abandonnés de tous. Mais je ne critique personne, je ne fais le reproche à personne. On a appris là ce que c'est que de dépendre de Jésus et que de Jésus. C'était une bonne école. Quand vous êtes dedans, ce n'est pas la meilleure des écoles. Mais c'était l'école de Dieu pour nous. Et David a appris cette école derrière l'ours et derrière le lion. Il savait que son Dieu était suffisant. Mes frères et sœurs, je vais terminer et vous dire quelque chose. Quand David a affronté Goliath. Vous avez vos Bibles? Lisez le verset 45 avec moi. Je vais conclure avec ça. David dit aux Philistins, 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Ça veut dire, vous comprenez dans le contexte, tu es lourdement armé. Lourdement armé. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Toi, tu es lourdement armé, mais moi, je marche au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. L'ennemi, des fois, cherche à nous impressionner par ses attaques diverses et variées. C'est pour ça qu'il ne faut pas se spécialiser dans un combat, mais être capable d'affronter différents combats, différents types de guerres. Des fois, l'ennemi nous impressionne. Mais nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que vous le croyez, Église de Colomiers? Nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Au nom de Jésus, les vies sont transformées. Alléluia. Amen. Toi, tu te présentes à moi avec un équipement lourdement armé. Tu me dis que tu peux me vaincre avec les puissances ténébreuses, les démons, tout ce que tu veux. Moi, j'ai le nom de Jésus.
Amen.
Et je déclare que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Dieu soit béni. Regardez ce que dit David. Il ne dit pas « Je m'appuie sur ma fronde ». Même s'il va à la guerre avec la fronde, il ne dit pas « Je m'appuie sur mon expérience à manier la fronde ». Il ne dit pas sur le fait que j'ai su sélectionner les bonnes pierres et qu'il y en a une là qui va entrer dans le front, dans ton front et te terrasser. Il ne dit pas ça. Il dit « J'ai la pierre, j'ai la fronde ». Écoutez bien, c'est pour la conclusion. « J'ai la pierre, j'ai la fronde ». Mais avant tout, j'ai le nom de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Quelqu'un va dire, comment ce Philistin doit-il être tué? Par Dieu, dit l'un. Vrai, mais pas sans David. Par David, dit un autre. Vrai, mais pas sans Dieu. C'est les deux, ensemble, qui ont terrassé Goliath. Je crois qu'à Colomiers, à l'île Jourdain, Goliath s'est levé depuis des années. Goliath tient des brebis dans sa gueule. Vous êtes avec moi, vous me suivez? Mais je veux croire qu'il y a une église à Coulommiers et à l'île Jourdain qui va affronter Goliath dans le nom de Jésus. Qui va arrêter de trembler. Qui va arrêter de dire à l'ennemi, tu es vainqueur parce que de toute manière, on ne te combat même pas. Parce que simplement on ne te combat pas, tu es déjà vainqueur. Mais je vais me mettre au combat. Alléluia. Je vais retrouver le chemin de prière, des réunions de prière de mon église. Vous savez, on vient à la réunion de prière, ce n'est pas pour que le pasteur il nous coche et dise, oui, c'est un bon chrétien. On vient à la réunion de prière parce qu'on a compris le combat dans lequel l'église est engagée. Alléluia. Que Dieu bénisse l'église de Coulommiers et de l'île Jourdain. On priera pour vous. Nous savons que vous priez pour nous. Mais vous serez dans notre cœur, on va prier pour vous. Et je m'attends de grandes choses de la part de Dieu.
Amen.
Parce que Jésus est grand. Alléluia. Je termine par la prière. Seigneur, merci. Merci pour l'occasion que tu m'as donnée de pouvoir partager ta parole ce matin encore avec mes frères et sœurs à Coulommiers. Seigneur, c'est une joie pour nous d'être là. C'est une joie de savoir qu'il y a en métropole des églises qui ont à cœur ton œuvre missionnaire à Mayotte et ailleurs. C'est une joie de savoir aussi que si nous sommes sur le terrain, tu mets à nos côtés des Hurs et des Aaron qui font que lorsque nous sommes fatigués, que nous baissons les bras, que nous ne pouvons plus peut-être mener le combat, il y a des Hurs et des Aaron en métropole qui nous soutiennent, qui lèvent nos bras et qui nous permettent, Seigneur, de continuer le combat. Seigneur, je te remets chacune de mes sœurs et chacun de mes frères. Seigneur, les combats sont là, les épreuves sont là. Mais nous voulons déclarer ensemble ce matin que le nom de Jésus est au-dessus de tout le monde. Nous voulons, Seigneur, grandir dans la foi et croire que tu es le Dieu de l'impossible. Et ce qui est impossible à vue humaine, nous le voyons avec l'ours, le lion ou Goliath, est possible en ton nom. Seigneur, bénis l'assemblée de Coulommiers. Bénis le travail qui est fait sur l'île Jourdain. Permet que ton peuple se multiplie, Seigneur, dans cette région. Amen. Multiplie ton peuple, Seigneur. Multiplie ton peuple. Je prie pour Luc et Valérie, afin que tu les bénisses dans leur ministère, dans les talents que tu leur as confiés, dans les capacités qui viennent de toi. Je prie pour tous ceux qui collaborent à leur côté, afin qu'ensemble ils forment une équipe de vaillants héros et de vaillants guerriers. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui est fatiguée, qui peut-être est en train de, comme un animal, lécher ses plaies, se lamenter sur ses plaies et a décidé d'arrêter le combat. Seigneur, je prie qu'au travers de ta parole et surtout de la conviction du Saint-Esprit, qu'elle ne regarde plus ses plaies, ses blessures comme elle les a regardées jusqu'à aujourd'hui, mais qu'elle puisse dire, le Seigneur a cicatrisé mes plaies et elles sont là pour démontrer que Jésus est vainqueur. Seigneur, je te prie, dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. 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 Amen.